Alors, quand on parle d'Internet à un technicien, il songe immédiatement datagramme, protocole, adressage, mais rarement à RFC. Alors, derrière ces trois lettres, on y trouve, comme on l'a expliqué juste avant cette interruption musicale, les principaux brouillons d'Internet et les fonctionnalités ouvertes qui se montent dessus. Pour expliquer un peu mieux que Solarus comment se construisent les bases du réseau des réseaux, et surtout depuis l'intérieur, nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec l'un de ces architectes du quotidien. Alors, il va tenter de nous expliquer justement les éléments de décision qui font qu'ingénieurs, développeurs et metteurs en œuvre s'accordent sur la manière de distribuer par paquet des gifs de chatons animés.
CPU, carré et petit utile.
Interview qui a été enregistrée en novembre dernier lors du Bazar du Libre.
Je reçois donc Stéphane Bortzmeyer, ingénieur recherche et développement à l'AFNIC, l'association française pour le nommage Internet en coopération, spécialiste de l'infrastructure Internet, rédacteur ou collaborateur à de nombreuses RFC, blogueur depuis 1996 sur bortzmeyer.org et éleveur de chatons au format IPv6. Stéphane Bortzmeyer, bonjour.
Bonjour.
Première question. Tu es quelqu'un qui est l'un des ingénieurs de référence en France, je vais dire, sur Internet. Mais toi, comment tu es tombé dans Internet ?
Personnellement, je me suis pris assez tard, en fait. C'est vers 1991, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, que j'ai commencé à sérieusement utiliser Internet et à regarder comment ça fonctionnait, ce qu'il y avait derrière. Donc je n'ai pas été, je n'ai pas de référence, mais je n'ai certainement pas été dans les premiers, loin de là.
J'ai dit que tu travaillais donc à l'AFNIC, tu es donc ingénieur R&D. L'AFNIC, c'est surtout connu comme étant le gestionnaire du top level domaine de la France et d'autres petits dominions un petit peu partout, dont Saint-Pierre et Miquelon, hein, le PM de CPU.PM, ça en a déjà parlé dans une des émissions. Et donc ça veut dire que l'AFNIC ne fait pas que ça, qu'il y a à côté aussi une mission de construction de l'infrastructure.
Il y a une mission opérationnelle d'assurer le fonctionnement de ces TLD, le plus grand étant .fr, une mission de registre à proprement parler, c'est-à-dire garder la base de données de ces TLD, quels sont les noms de domaine, quels sont les titulaires, quels sont les serveurs de nom. Et il y a aussi une mission qui est classique en informatique, de préparer le futur, puisque les choses évoluent, l'Internet évolue tout le temps, et il est particulièrement important que cette évolution soit partagée par tous, c'est-à-dire repose sur des normes ouvertes, évitant que les utilisateurs soient enfermés dans une technique particulière, et permettant à tous de s'interconnecter et d'interagir. Donc il est important que les évolutions de l'Internet ne soient pas décidées unilatéralement d'en haut, mais soient le résultat d'un processus de normalisation. Alors, je vais utiliser des grands mots, désolé, mais un processus de normalisation ouvert à tous, égalitaire, permettant la participation du plus grand nombre.
Donc on va parler du système des RFC. Alors explique-nous un peu ce que c'est que RFC, parce que je crois que c'est une abréviation en anglais, et je crois savoir que c'est à partir de là, en fait, que l'on crée justement les standards qui régissent Internet.
C'est en fait, à l'origine, c'était un sigle, effectivement, RFC, Request for Comment. On le détaille de moins en moins parce qu'en fait, il ne correspond plus à la réalité. Au début du processus, les étudiants qui travaillaient sur l'Internet de ses débuts, quand il s'appelait même pas encore l'Internet, s'étaient dit, ça serait une bonne idée quand même de rédiger tout ça, toutes ces discussions, toutes les notes qu'on a prises et puis toutes les règles qu'on définit pour le réseau expérimental. Ça serait une bonne idée de les rédiger. Comment on va appeler ça? Non, low, wall, non, tout ça c'est trop fort. On va appeler ça request for comment parce que ça illustre bien le côté expérimental des débuts, le côté c'est un processus en cours, ça s'arrête jamais, on fixe pas des règles définitives dans le béton, mais on permet à tout le monde de les modifier. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup d'électrons sont passés dans les câbles et les RFC ne sont plus du tout des requêtes des appels à commentaires, ce sont des documents qui sont figés, ce sont la plupart d'entre eux des normes techniques, c'est-à-dire décrivant ce que doivent faire deux ou plusieurs parties pour communiquer et interagir dans le bonheur général. Et donc il n'y a plus... bien sûr, l'élaboration même des RFC fait appel à beaucoup de commentaires et beaucoup de discussions, mais le RFC lui-même, quand il est publié, est un document statique et immuable.
Donc le RFC, au bout d'un moment, c'était justement la base de la discussion. En fait, tout se fait en amont actuellement. Donc comment ça marche? C'est quelqu'un qui le fait dans son coin et qui tout d'un coup expose avec « ce sera comme ça et puis point barre ». C'est comme ça que nos ordis vont dialoguer et puis full stop. Ou bien, justement, il y a un processus réel de dialogue. Et dans ce cas-là, entre qui? Est-ce que c'est que des grandes boîtes, des grandes, des petites, des universités, l'armée et tout le reste?
Et la NSA aussi, parce qu'à la dernière réunion de l'IETF, je me souviens que j'étais assis à côté du représentant de la NSA, enfin de celui qui avait le badge de la NSA. Il y en avait peut-être d'autres qui venaient, qui avaient un badge plus discret.
Poulouf, plouf, ce sera toi qui seras fiché.
Et alors, bon... ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a plusieurs façons de produire des RFC. En fait, il y a plusieurs processus possibles. Le plus typique, le plus standard, le plus courant, c'est qu'une personne ou un groupe de personnes estime qu'il serait bon d'avoir une norme technique pour telle technique. Et ils rédigent un premier document qu'on appelle un Internet Draft. Ensuite, ils essayent de trouver un des groupes de travail de l'IETF qui veuille bien l'adopter, voire dans certains cas, demander la création d'un groupe de travail particulier. Ce groupe de travail va devoir ensuite discuter s'il adopte le document. Si oui, il devient document d'un groupe de travail, non plus document individuel. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, quelques engueulades aussi. Et au bout d'un moment, le document, s'il est jugé prêt, passe par un stade de working group last call, qui est le moment où on dit « bon, c'est bon, un groupe de travail, tout le monde est d'accord ? Ok ». On accepte et on passe après à l'IESG, qui est un peu la direction technique de l'IETF, qui va à son tour l'examiner. C'est souvent douloureux parce que les membres du groupe de travail, en général, partagent une même vision. C'est pour ça qu'ils font un groupe de travail ensemble. Et dès que ça sort à l'IESG, qui est chargé d'assurer l'intégration générale de toutes ces normes, des fois, il faut partir de zéro, réexpliquer, recommencer, et s'apercevoir que l'accord qu'on avait au sein du groupe n'est pas partagé à l'extérieur. Si tout se passe bien, l'IESG finit par approuver. Et à ce moment-là, c'est transmis à l'éditeur des RFC qui se charge de corriger les fautes d'orthographe, relire, vérifier les bibliographies, tout un tas de choses comme ça, et qui peut être plus ou moins douloureux, surtout quand l'auteur n'est pas anglophone. Et enfin, le RFC est publié, et là, on peut ouvrir le champagne.
Et alors, ça fait qui? Qui peut y participer dans l'ensemble? Et comment peut-on participer spontanément, dire ben, « moi, je veux aider à relire les protocoles ».
Donc la majorité des RFC, la grande majorité, surtout les plus importants, sont produits par l'IETF. Donc comment est-ce qu'on rejoint l'IETF? C'est facile, il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'adhésion. L'IETF est une organisation complètement informelle. Non. Presque complètement informel. Donc n'importe qui peut participer. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les groupes de travail vivent autour d'une liste de diffusion où on discute les projets en cours. On s'inscrit sur cette liste de diffusion. Il y a aussi d'autres outils qui sont utilisés. On a maintenant une panoplie d'outils de groupeware assez perfectionnés. Je veux dire, j'en suis assez satisfait. Il y a des fois aussi des gens qui utilisent des outils extérieurs à l'IETF, GitHub étant un exemple. Mais in fine, la discussion se fait sur la liste de diffusion, le but étant que le processus soit ouvert, donc la liste de diffusion est publique, elle est y compris archivée publiquement, donc il faut que tout le monde puisse vérifier ce qui a été fait. Le but est d'éviter des choses comme par exemple le NIST, l'organisme de normalisation aux États-Unis, qui a accepté une partie d'un protocole de sécurité qui avait été délibérément affaibli par la NSA. C'est le cas du duel CRBG qui est raconté par Snowden dans ses documents.
Qui est une composante donc du système SSL, c'est-à-dire de ce qui normalement devrait protéger le HTTP et tout ça.
Non, ce protocole particulier n'était pas, à ma connaissance, n'a pas été utilisé dans le cas de TLS. Hein. SSL, c'était le nom il y a 15 ans. Par contre, c'est pu être utilisé comme composante de certaines solutions de sécurité. Et une des raisons pour lesquelles ce genre de manipulation est possible au NIST, c'est qu'une partie du processus NIST est fermée et met en jeu des discussions derrière qu'on ne voit pas. À l'IETF, normalement, dans le cas idéal, tout est ouvert. Donc si, par exemple, le représentant de la NSA veut faire passer telle idée, il peut le faire, comme tout le monde. Mais il doit l'exposer publiquement, pourquoi il pense ça. Et s'il ne le justifie pas techniquement, s'il ne dit pas pourquoi on vote ça, eh ben, dans ce cas-là, il a de fortes chances qu'on dise bon, « ben, dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas, terminé, tant que tu ne peux pas fournir la justification, c'est rien ». Donc ce processus ouvert est une des choses qui protège l'IETF contre une capture, que ce soit par la NSA ou par une grosse entreprise particulière. Google peut proposer autant de choses qu'ils veulent, mais s'ils veulent les faire adopter, ils doivent expliquer pourquoi et ils doivent convaincre les gens.
Donc, pour tous les fans de théorie du complot et tout ça, dire qu'Internet est aux mains des gouvernements américains, il n'y a rien de plus faux. Et la meilleure preuve, c'est que justement, il y a une obligation d'ouverture de la décision, de la manière dont se construit Internet. Et du coup, justement, on peut tracer d'où vient chaque décision, puisqu'on a les emails de chacun.
Tout à fait. C'est cette traçabilité qui est le point le plus important. C'est pas un monde idéal. Il y a quand même des magouilles de couloirs qui sont possibles, comme dans n'importe quelle organisation humaine. Mais elles sont beaucoup plus difficiles à l'IETF. La plupart des organisations de normalisation, malheureusement, sont totalement ou partiellement fermées. Les gens du logiciel libre se souviennent, par exemple, du problème de l'adoption des normes OpenXML ou OpenOffice qui avait fait tant d'histoires il y a quelques années, parce qu'effectivement, l'ISO est une organisation de normalisation ultra fermée où les décisions finales se prennent complètement derrière des portes closes. Au contraire, à l'IETF, la totalité du processus est ouverte, même des fois trop. On a trop d'informations, on est des fois un peu noyé. Mais c'est ça qui permet effectivement cette traçabilité. C'est-à-dire que si quelqu'un, 10 ans après, vient dire « Mais pourquoi on a mis au fait, pourquoi on a fait ça au fait ? Et pour quelle raison ?» On peut reprendre toute la discussion de l'époque et voir pourquoi ça a été décidé et, par exemple, éviter de refaire les mêmes erreurs.
On est en fin d'année 2015. Quels sont actuellement, justement, les points de discussion les plus importants de l'IETF, les RFC qui y vivent le mieux, entre guillemets, dans le sens que ça bouge beaucoup sur la discussion, sans forcément aller jusqu'au troll?
Bon, il y en a plein et évidemment, ceux qui sont les plus chauds actuellement sont ceux qui portent sur la sécurité et le chiffrement. C'est une conséquence des révélations de Snowden. Edward Snowden s'est d'ailleurs adressé à la dernière réunion de l'IETF à Prague. Il avait fait un exposé qui avait été remarqué parce que non seulement il avait parlé de sujets politiques importants, mais il avait montré qu'il suivait en plus les travaux de l'IETF, qu'il les connaissait bien et qu'il pouvait donner des avis spécifiques. Par exemple, il avait encouragé le projet DNS et vie privée. C'est le premier dont je vais parler parce que c'est celui auquel je participe. Donc c'est là où je vais dire le moins de bêtises. Le DNS, c'est le système qui permet, en échange des noms de domaine comme www.afnic.fr, d'obtenir des informations techniques comme par exemple l'adresse IP des machines auxquelles on veut se connecter. Comme la plupart des protocoles, il peut poser des problèmes de vie privée parce que quelqu'un qui peut examiner le trafic DNS peut voir à quoi on est intéressé. Tiens, ce type s'intéresse aux alcooliques anonymes, par exemple. Et donc là, on peut en déduire des tas de choses sur lui, du genre, par exemple, qu'il est alcoolique. Et c'est évidemment très gênant. Donc le but auquel s'est engagé l'IETF lors de sa réunion de Vancouver il y a 2 ans, c'était de considérer que la surveillance massive de l'Internet telle que le fait la NSA, telle que on savait que le faisait la NSA, mais telle que c'est prouvé depuis les documents Snowden, cette surveillance massive est une attaque contre l'Internet et donc c'est notre devoir de faire tout pour la rendre plus difficile, voire impossible si tout va bien. Donc dans l'eau, le projet DNS et vie privée, qui est porté par 2 groupes de travail, un groupe de travail qui existait sur les opérations DNS et un nouveau qui a été créé pour la circonstance qui s'appelle DPRIV, DNS Privacy. Ces groupes de travail ont travaillé d'abord à documenter le problème, c'est-à-dire à rédiger rigoureusement quel est le problème exactement qu'on essaie de résoudre. On ne peut pas avancer si on ne sait pas quel est le problème qu'on essaie de résoudre. Donc il faut d'abord dire exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est possible de déduire de l'observation DNS, quels sont les points dans lesquels le DNS est utile à un espion et les points où il est moins utile. Et tout ça, ça a donné la publication d'un RFC, justement, le RFC 7626, qui documente les problèmes de vie privée du DNS. Et ensuite, deuxième phase, trouver des solutions. Il y a actuellement pistes qui sont suivies et qui sont bien avancées. L'une, c'est de minimiser les données qui sont envoyées, c'est-à-dire que chaque acte l'acteur du DNS ne transmette au serveur suivant que le minimum d'informations dont ce serveur a besoin. Ça peut paraître évident, mais ce n'était pas comme ça que fonctionnait le DNS avant. Donc on essaye de minimiser les données envoyées. Le RFC qui décrit cette technique devrait être publié, travailler. Actuellement, il est dans ce qu'il appelle un IETF last call, c'est-à-dire un last call qui concerne toute l'IETF et pas juste un groupe de travail. Après, il passe à l'IESG qui sera chargé de l'adopter, mais a priori, je pense que c'est bien parti. Et donc, le RFC pourrait paraître dans les mois à venir. Le deuxième point étant, on minimise les données et on chiffre les données, on chiffre les requêtes et les réponses DNS qui actuellement sont en clair. On les chiffre pour éviter qu'un tiers ne puisse les intercepter, ou en tout cas pour rendre l'interception plus difficile et plus coûteuse. Donc voilà un exemple des choses sur lesquelles travaille l'IETF. Maintenant, l'IETF a d'autres sujets de travaux liés à la sécurité. Par exemple, un système de chiffrement dans le protocole TCP qui est utilisé par la plupart des communications sur Internet. Et la nouvelle version de TLS, le principal protocole de chiffrement actuel. Et beaucoup d'autres travaux liés à la vie privée et à la sécurité.
Alors, il est vrai que Internet, c'est un système qui est justement décentralisé le plus possible jusqu'au niveau décisionnel, que en même temps, il y a des organismes centralisés gouvernementaux qui existent, notamment l'ITU concernant tout ce qui est les télécoms et les gouvernements eux-mêmes qui veulent essayer d'imposer leurs propres standards pour les raisons X ou Y. Est-ce qu'il y a des luttes d'influence, voire même des remises en cause de l'IETF qui se font actuellement? Et si oui, jusqu'à quel point? Est-ce que c'est vrai que cela va jusqu'à l'interdiction et la privation de bière en organisant des réunions en Arabie Saoudite?
Alors les réunions physiques de l'IETF sont d'ailleurs un sujet de controverse parce que évidemment elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut se déplacer, ça coûte de l'argent. Et la plupart ont lieu toujours dans les mêmes pays, Europe, États-Unis, Japon, en gros dans les pays de l'OCDE. Par exemple, c'est en mars qu'on ira à Buenos Aires, en Argentine, qui sera la première réunion de l'IETF en Amérique latine. Mais l'IETF permet aussi de travailler sans les réunions physiques, parce que c'est vrai que ces réunions physiques sont un petit peu excluantes pour les gens qui n'ont pas un budget considérable. Et par exemple, j'ai fait partie d'un groupe de travail qui s'appelait LTRU, qui gérait le registre des étiquettes de langue, c'est-à-dire que tous les messages qu'on envoie sur l'Internet peuvent être étiquetés en indiquant la langue utilisée, et pas seulement la langue, l'écriture, il y a des langues qui ont plusieurs écritures possibles, la langue, l'écriture, les variantes nationales ou régionales, et ce mécanisme donc nécessite de garder un registre de ces étiquettes de langue. Et le groupe de travail LTRU, qui a fait la version actuelle de la norme et du registre, ne s'est jamais réuni physiquement. C'est un cas assez unique dans les annales de l'IETF. Ça montre que c'est possible de travailler, de produire un résultat de bonne qualité, sans participer aux rencontres physiques. Néanmoins, les rencontres physiques, ça aide, ça met de l'huile dans les rouages, les gens se rencontrent, on discute. Il y a les réunions formelles, mais après le soir, on se retrouve effectivement au bar. Et pas mal de projets avancent comme ça. Ça aide à partir du moment où on respecte le principe que les décisions et leurs motivations restent publiques.
Actuellement, quel serait ton rêve pour la suite, justement, sur la construction d'Internet ? Est-ce que ce serait un rêve sur le niveau décisionnel ? Est-ce que ce serait un rêve sur le niveau purement logique ? Ou un rêve sur un consensus politique ?
Le rêve, ça serait que les utilisateurs s'emparent plus de la gestion d'Internet. Parce que pour l'instant, bon, la partie technique est plutôt bien faite par l'IETF et les experts se débrouillent bien. Je ne vais pas dire le contraire, je prétends faire partie. Néanmoins, l'Internet, ce n'est pas uniquement des normes techniques. C'est aussi, par exemple, il faut les utiliser. L'IETF peut faire les plus belles normes du monde. Si elles ne sont pas mises en œuvre dans les programmes, travail des développeurs informatiques, et si ensuite c'est programmes ne sont pas activés par les administrateurs système et utilisés par les utilisateurs, c'est-à-dire par tout le monde, alors ces belles normes IETF n'auront servi à rien. Donc c'est important aujourd'hui, ce qui manque le plus à l'Internet, c'est que les utilisateurs sont trop consommateurs et qu'il n'y a pas assez de réflexion, de pensée, de compréhension de la façon dont ça fonctionne.
Stéphane Borsmeyer, merci beaucoup. Rappelle-nous un peu ton blog, ce que tu mets dessus et quel est ton conseil de lecture que tu donnerais.
Mon blog, c'est surtout des résumés et des introductions au RFC ou à d'autres technologies Internet, parfois par le biais d'un RFC, parfois autrement. Donc ça concerne surtout des informaticiens. De temps en temps, je parle aussi des livres que j'ai lus et que je recommande, mais c'est relativement secondaire. C'est surtout un blog de technique, désolé.
D'accord. C'est confidentiel, comme ils disent, dans ta nouvelle série favorite.
Non, ça n'est pas confidentiel, mais c'est vrai qu'on a besoin, d'attaquer les objets techniques à plusieurs niveaux. Actuellement, un problème général de la technique dans notre société, c'est qu'il y a les experts qui connaissent et le reste qui ne connaît rien. Et entre les deux, le néant. Ce qui est important, c'est qu'on ait un système plus varié, où il puisse y avoir des gens qui, sans être des experts, comprennent quand même un peu comment fonctionne un système.
Stéphane Bortsmeyer, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bortsmeyer, donc l'on a pu voir lors du Bazar du Libre en tenue de Chewbacca parce qu'il faisait froid.
Et surtout parce qu'il faisait une conférence sur Yeti DNS.
Ouais. Et c'est quelqu'un, vraiment essayer de le voir, il sait, même si la conf est hyper technique, il sait se mettre au niveau de n'importe qui, c'est vraiment du bonheur.